c'est qui?
Sarah, je viens pour... je vous amener quelque chose.
Je vois, je vois. Deuxième porte à gauche, en bas de l'escalier.
Voyante de l'archéologie, le balado présenté par Archéo-Québec. Aujourd'hui, le naufrage de l'Elizabeth and Mary à Baie-Trinité, entre Baie-Comeau et Sept-Îles, là où le fleuve Saint-Laurent devient la mer. Avec Madame Claire, la voyante qui voit clair, surtout dans le passé, et Sarah, une amoureuse de la mer et du fleuve, qui voudrait comprendre l'histoire qui se cache sous les eaux.
Bonjour, Sarah, bienvenue. Qu'est-ce que je peux voir pour toi?
Bonjour, Madame Claire. Je vous ai apporté ceci. Je sais que c'est pas grand-chose.
Oh, c'est lourd. Enfin, pas tant. Ça tient dans une bouteille d'un litre.
J'ai ramené ça du large.
Ne dis rien, laisse-moi deviner. Ça fait floc, floc, floc. C'est fluide, c'est liquide. Une pinte de lait?
Non, j'ai ramassé ça en faisant du kayak.
Laisse faire le filtre clair de Madame Claire. Ah, belle cuvée! Une jolie robe transparente. Une drôle d'odeur. Hein? Un parfum de poisson, d'algues et d'air frais. Je vois la lumière qui passe à travers. On dirait de l'eau. Bon, je goûte. Ouah, c'est salé!
Mais oui, c'est de l'eau de mer.
C'est bien ce que j'avais bu. J'avais vu de l'eau de mer. Ouah!
Et alors, qu'est-ce que vous voyez?
Je vois rien encore, mais j'entends. Oh oui! J'entends la mer.
Oh, on dit qu'il y a beaucoup d'épaves dans le golfe du Saint-Laurent. Vous les voyez?
Oh oui! Je vois des naufrages. Des tas de naufrages. Des bateaux qui coulent. Des marins qui crient. Des équipages noyés. Des épaves perdues à jamais. Des barques, des paquebots, des cargos. Je vois des millions de carcasses de bateaux dans le fond de l'eau. Glou, glou, glou.
Madame Claire.
C'est la voix de l'archéologie qui nous parle.
C'est qui, elle?
C'est ma petite voix de la raison, celle qui me rappelle qu'on ne fouille pas dans le passé sans savoir ce qu'est l'archéologie.
Ma chère Madame Claire, il ne faudrait quand même pas exagérer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épaves au fond du Saint-Laurent. Avec ce qu'on sait, on peut affirmer que le fleuve pourrait receler au moins un millier de navires qui ont fait naufrage. Peut-être plus, mais pas des millions.
Mais donc, oui, oui, je vois une épave dans un verre d'eau.
De l'eau que j'ai puisée en passant à Lens-au-Boulot près de Baie-Trinité. C'est là qu'a coulé la plus vieille épave trouvée au Québec, l'Elizabeth and Mary. Entre nous, Madame Claire, je l'avais déjà googlée.
Voyons voir ce que me dit encore le passé. L'Elizabeth and Mary a coulé après une terrible tempête. Des vents a écorné les baleines. Des pluies pires que les chutes Niagara. Un typhon jamais vu dans la région. Oh oui, un terrible ouragan. Un cyclone impitoyable. Un tsunami gigantesque. Quoi encore?
Madame Claire, je vous arrête tout de suite. Dans la majorité des cas, les naufrages sont plutôt des échouages. C'est-à-dire que le bateau a coulé suite à une action volontaire de l'équipage. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à l'Elizabeth and Mary. On peut penser que le capitaine a fait échouer son navire pour fuir un incendie à bord.
Un incendie? On va me faire croire que le bateau a brûlé dans l'eau?
On a trouvé des traces de feu sur le bois de l'épave. En analysant la carcasse du bateau, les objets laissés sur place, les archéologues ont conclu que le capitaine aurait décidé de diriger le bateau vers la côte afin de sauver son équipage.
Le bateau a donc coulé pour sauver l'équipage d'un incendie. J'espère au moins qu'il savait nager.
Dans le cas de l'Elizabeth and Mary, la petite barque faisait partie d'une expédition militaire contre les possessions françaises lancée par Sir William Phipps, un aventurier de la Nouvelle-Angleterre qui voulait reprendre la ville de Québec pour le compte de la colonie du Massachusetts.
Imagine ça, Sarah! On serait des Massachusettois à cette heure!
Le bateau et l'équipage venaient du village de Dorchester, près de Boston. Des textes de l'époque nous ont appris que la flotte s'était dispersée suite à une série de tempêtes impitoyables à la hauteur de Tadoussac, et que l'Elizabeth and Mary avait dérivé de sa route vers la côte nord.
Ben, voilà, je l'avais dit, il y avait bien une tempête quelque part.
Mais comment est-ce qu'on a pu savoir que c'était bien l'Elizabeth and Mary?
En fouillant l'épave, les plongeurs archéologues ont découvert des milliers d'objets et parmi ceux-ci, certains étaient identifiés au nom de leur propriétaire, un peu comme quand on inscrit son nom sur sa boîte à lunch pour ne pas la perdre. Une écuelle en particulier avait les initiales du soldat qu'il avait emporté avec lui, mais aussi les initiales de sa femme.
Il avait peut-être peur d'oublier le nom de sa femme?
En consultant les registres de l'époque et la documentation historique, on a pu remonter jusqu'à son propriétaire et découvrir que celui-ci faisait partie de l'équipage de l'Elizabeth and Mary. Le bateau avait disparu en 1690, le long de la côte nord, sans laisser de traces. Au fil des découvertes, les archéologues ont pu mettre la main sur des dizaines d'initiales comme ça, sur des cuillères, sur des manches de hache, sur des fusils.
Et si j'en crois l'eau que tu m'as ramenée de ton expédition en kayak, Sarah, les soldats de M. Phipps ont coulé avec leurs cuillères, leurs haches et leurs fusils dans les tréfonds des profondeurs abyssales de l'estuaire majestueux du Saint-Laurent.
C'est plutôt tout près de la rive, devant son chalet à Lens-au-Boulot, qu'un plongeur amateur a trouvé les premiers objets au fond de l'eau. Dans moins de 3 mètres d'eau, à peine 100 mètres de la rive, l'épave était très bien conservée car elle avait été ensablée. C'était une découverte importante car c'est la plus ancienne épave trouvée au Québec et elle contenait de nombreux objets intéressants cachés au fond de l'eau.
C'est vrai que j'en vois des affaires qui n'ont pas d'affaires là, dans les mers et les rivières quand je fais du kayak.
On a découvert des munitions, des milliers de balles, parfois encore dans leur emballage. On a aussi trouvé des bouteilles, des plats de service, même des souliers bien conservés. Il y avait aussi beaucoup d'objets plus personnels, comme des pipes, des bols, des pots en faïence, des rasoirs, des peignes à poux.
Des peignes à poux?
On coiffait les poux à l'époque?
Oui, des peignes à poux en ivoire, un objet rare qui devait appartenir à un membre d'équipage plus riche. Parmi les choses que les archéologues ont mises à jour dans l'épave, il y avait aussi une broche en argent qui devait appartenir à un milicien qu'il gardait en souvenir de sa chérie, laissée derrière lui. On avait aussi retrouvé des morceaux de cuir, de la soie et des lainages.
Mais à quoi ça sert de ramasser tout ça?
Je te l'ai dit, Sarah, c'est pour mieux m'aider à lire dans le passé. Quand je vois un objet d'autrefois comme une boucle de ceinture, eh bien, je peux affirmer que les gens portaient des ceintures.
Et qu'ils avaient des pantalons.
Une épave aussi bien conservée que l'Elizabeth and Mary, c'est un peu comme une capsule temporelle, une photo précise et en 3D de l'époque. Ça donne une excellente idée de la manière dont on vivait à cette époque-là, ce qu'on utilisait comme objet et comme outil. Les miliciens enrôlés pour attaquer Québec devaient fournir leur propre équipement. C'est la raison pour laquelle on a pu voir de nombreuses initiales sur les objets trouvés dans l'épave. Parmi ceux-ci, il y avait aussi une jolie fourchette qui a permis de confirmer que l'équipage était composé de gens de différentes classes sociales.
Sarah, la prochaine fois, amène-moi une fourchette et je te dirai ce que tu as mangé.
On a trouvé 29 fusils et 7 pistolets. Certaines armes avaient été achetées pour l'expédition, mais la grande majorité appartenait aux miliciens.
Mais comment peut-on trouver autant d'objets aussi vieux sous l'eau alors qu'ils ne sont même pas en plastique?
Ce qui est formidable avec l'archéologie subaquatique, c'est-à-dire sous l'eau, c'est qu'on peut trouver des choses qu'on ne trouve pas dans la terre. L'eau a la propriété de conserver les objets organiques, comme le cuir ou le bois, bien mieux que la terre.
Déjà que c'est pas facile de faire du kayak au-dessus quand il y a des vagues, ça doit pas être facile de fouiller sous l'eau.
Dans le cas de l'Elizabeth and Mary, les plongeurs ont travaillé plus de 1800 heures pour récupérer des objets et mettre à jour la carcasse de l'épave. Comme c'était à petite profondeur et pas loin de la côte, les plongeurs pouvaient même y aller à la nage. Et puis, fouiller dans l'eau, c'est un peu comme être en apesanteur. Les archéologues flottent au-dessus du site dans le silence de la mer. Il y a donc des avantages. On n'est pas plié à quatre pattes pour gratter de la terre. Les objets qu'on ramasse sont plus légers dans l'eau.
Et c'est plus facile de ne pas marcher sur les fouilles.
À la fin de 1994, quand le plongeur amateur Marc Tremblay a fait sa découverte au pied de son chalet, il a vite compris que c'était un véritable trésor. Il a fallu attendre le printemps pour retourner sur place où une équipe de 21 plongeurs a commencé les premières fouilles archéologiques sous-marines. Celles-ci se sont poursuivies en 1996. Mais les terribles intempéries du déluge du Saguenay ont menacé l'épave et retardé le travail.
Oh oui, je me souviens, le Saguenay. Oh, je vois de l'eau, beaucoup d'eau, de la pluie, beaucoup de pluie, des inondations, oh, beaucoup d'inondations.
Pour mettre à jour tous les artefacts, les archéologues ont poursuivi leurs fouilles en 1997. En tout, c'est plus de 6000 objets qu'on a mis à jour, dont certains sont exposés dans les musées.
Tu vois, Sarah, je le savais bien que dans ton eau de Bétrinité, j'allais trouver quelque chose.
Il y a encore beaucoup d'épaves, de trésors enfouis et de secrets. Le fleuve Saint-Laurent n'a pas encore livré tous ses mystères. Le dernier naufrage date de 1998 avec le Briar Mist. Le naufrage le plus célèbre, c'est celui de l'Empress of Ireland qui a coulé tout près de Rimouski en 1914 avec 1014 passagers et membres d'équipage. Et le plus profond de tous, c'est sans doute celui du Carolus torpillé par un sous-marin allemand au large de Sainte-Flavie et retrouvé à plus de 240 mètres.
Ça donne envie d'échanger mon kayak pour une tenue de plongée.
Une production d'Archéo Québec, réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Réalisation, Valérie Fugulin et son équipe.